Radio Capi. Oh, Capi. Journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Une délégation des députés nationaux de Masisi et Rutshuru trouve hypothétique la tenue des élections dans la zone occupée par le M23 au Nord Kivu. Pour eux, les électeurs de cette partie du pays n'ont pas pu se faire enrôler à la suite de la situation sécuritaire. Ils l'ont dit hier à Kinshasa au premier vice-président de la CENI. Un cas confirmé et 3 autres cas suspects de la variole de singe ou monkeypox sont enregistrés et suivis à Bukavu au sud Kivu depuis 3 jours déjà. Les autorités sanitaires demandent à la population d'observer des mesures d'hygiène et de signaler tout cas suspect de monkeypox. L'administrateur gestionnaire du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma, Anissé Mourouani, est l'invité de ce journal. Ce centre médical communément appelé Santé Mentale totalise 30 ans au service de la population de l'Est du pays. Bonsoir à tous. Notez d'abord que le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce jeudi le diplôme de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa Unikin. Ce titre honorifique lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir, peut-on lire dans un message publié par la présidence de la République sur les réseaux sociaux X, ancien Twitter. Processus électoral, la tenue des élections dans la zone occupée par le M23 au Nord Kivu s'avère à ce jour hypothétique. L'élu de Masisi, Jules Mugiraneza, affirme, je cite, « Pour Masisi et Rutshuru, tout dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays. Nous allons donc attendre que les conditions soient réunies pour que nous nous mettions en mouvement le cas échéant. » L'élu de Masisi l'a dit hier après des échanges entre la délégation des députés nationaux de Masisi et de Rutshuru et le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilanga Lembo. Selon les élus de ce territoire, l'insécurité n'a pas permis l'enrôlement des électeurs de ce coin du pays. Le député national Jules Mugiraneza est au micro de Michel Kifindangoy.
Vous savez qu'il est prévu que les élections aient lieu le 20 décembre de cette année, c'est dans 2 mois, et nous n'avons pas encore de réponse exacte pour savoir si Rutshuru et Masisi seront concernés par le processus électoral. La population a le désir profond et légitime de se faire enrôler pour détenir le droit comme les autres peuples congolais. Mais quand ils nous posent des questions, nous n'avons pas de réponse. Ça nous embarrasse. Nous-mêmes, nous demandons si nous irons aux élections, s'il faut nous préparer. Ça nous stresse. Et au regard de tout cela, nous avons pensé que la porte indiquée, c'était d'échanger avec les responsables de la CENI, l'organe qui pilote les élections. Nous avons fait des échanges fructueux. Ils ont été attentifs. Ils nous ont même prodigué des conseils. Et je crois que nous nous réjouissons d'avoir été avec eux aujourd'hui. C'est le souhait et le désir profond de la CENI. Mais tout ne dépend pas de la CENI et nous avons compris cela. Au départ, c'est lié à un problème de sécurité.
Au sud Kivu, le commandant de la 3e zone de défense des FARDC a clôturé hier à Uvira sa mission d'inspection et de commandement dans le secteur opérationnel Sokola 2 au sud de la province du sud Kivu. C'est le deuxième passage du lieutenant général Marcel Mbangu Machita dans cette région d'Uvira et de Fizi Itombwe. Il y a été pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des ordres qu'il avait donné aux hommes des troupes et aux commandants des grandes unités des FARDC. D'après son porte-parole, le major Nestor Mavudisa, les militaires au front ont été réconfortés par sa présence. Fiston Goma.
La situation sécuritaire est sous contrôle des FARDC dans les secteurs sud-sud. Ce constat a été fait par le commandant de la 3e zone de défense à la clôture de sa mission à Uvira. La semaine dernière, des attaques contre des positions des FARDC dans le haut plateau de Minembwe étaient suivies des accrochages entre les troupes loyalistes et les combattants Tuirwaneo. Les porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavudisa, rassure que le militaire FARDC se comporte bien sur le terrain et exécute sans faille les ordres leur donnés.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est une armée loyale, républicaine, respectueuse des textes. Il y a un programme lancé par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, le programme de PDDRCS. Donc, ceux qui veulent être en ordre avec l'État congolais ou la nation doivent adhérer à ce programme. Il y a des rendus que nous avons reçus au niveau de Bukavu, qui sont venus juste de ces mêmes groupes armés, plus précisément de Minembwe, c'est ce que nous encourageons. Nous lançons encore cet appel à ceux qui traînent le pas, qu'ils puissent venir. Nous allons le recevoir pour qu'ils adhèrent à ce programme.
Le lieutenant général Marcel Mbangu a instruit la suppression de toutes les barrières entre Uvira et Fizi. Il s'est dit, selon son porte-parole, ne pas être d'accord avec certains miliciens répondant au nom de Wazalendo et qui érigent une administration parallèle dans le milieu d'Uvira Fizi Tombwe. D'Uvira Fiston Gomomayabala, Radio Okapi.
Venons-en aux nouvelles des différents fronts du Nord Kivu. Une accalmie est signalée depuis ce matin aux différentes lignes de front où se battent depuis près de 10 jours des groupes armés locaux et les éléments du M23. C'est notamment dans la zone de Bouiza et autour des Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs sources parlent d'un redéploiement des FRDC à Kichanga, territoire de Masisi, même si l'armée ne l'a pas encore officiellement confirmé. Bernard Nyangi.
Cette accalmie est constatée notamment dans le groupement de Bichoucha après de violents affrontements presque tout l'après-midi hier dans certains villages comme Chongi et Rosekera. La coalition de groupes armés locaux qui occuperait déjà le chef-lieu de ce groupement et d'autres villages n'aurait pas pu avancer vers Bouiza où les rebelles du M23 seraient toujours concentrés et mêlés aux milliers de civils, membres de familles et d'éleveurs, indiquent plusieurs sources locales. Quant à la cité de Kichanga, dans le territoire de Masisi, les activités reprennent après un peu plus de 48 heures d'accalmie. Plusieurs sources locales parlent de la présence des FARDC dans cette cité stratégique. Ces derniers s'y sont déployés depuis déjà 2 jours, disent ces sources. Cependant, le porte-parole du gouverneur dément toujours. Pour le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, l'armée continue à observer le cessez-le-feu et ne peut se retrouver à Kichanga. Nos sources ajoutent par ailleurs qu'à Kiwanja dans le Rutshuru, les activités reprennent également timidement ce jeudi matin après des affrontements entre 14h et 16h locales hier, toujours entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23. C'était entre Kinyandoni et Nkwenda, à environ 7 km de cette agglomération. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, toujours au nord Kivu, la société civile de la localité de Mamov, au nord-est d'Oicha, chef-lieu du territoire, dénonce la multiplicité des barrières militaires sur plusieurs axes routiers dans la région. Selon Kinos Katou, son président, les usagers des différentes routes du territoire de Beni sont obligés de débourser d'importantes sommes d'argent avant tout passage à ces barrières. Il recommande la suppression de toutes les barrières pour permettre une libre circulation de la population et de ses bien. Kinos Katuo le dit au téléphone d'André Kitenge.
Presque dans tous les territoires de Beni, les militaires et les services de sécurité ont érigé plusieurs barrières en demandant de l'argent sakitas sur les produits agricoles comme le cacao et l'huile de palme. Des motards et chauffeurs de camionnettes qui paient de l'argent sur l'axe Oicham, Mamove, Beoumanyam, Maliki et Mandumbi. Sur la route nationale numéro 4, sur l'axe Beni-Kassindi, nous sollicitons la suppression sans condition de la barrière sur la rivière Semuliki et la barrière à Boulongo-Kanyansi qui n'a pas d'importance sur la survie de la population, car plusieurs sommes sont perçues sur ces deux barrières sakitas et qui donnent beaucoup de tracasseries sur la paisible population. Ainsi, nous sollicitons la suppression de plusieurs barrières créées partout où il y a des positions militaires seulement pour demander de l'argent.
Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires dans la région, indique que les services compétents de l'armée sont déjà saisis de la question. Il annonce une mise sur pied d'une commission d'enquête mixte des FRDC et de la société civile pour mettre fin à cette pratique. La variole de singe ou monkeypox fait son apparition dans la province du Sud Kivu. Un cas confirmé et 3 autres cas suspects sont enregistrés et suivis dans la ville de Bukavu depuis 3 jours. Tous ces malades proviennent de la zone de santé de Kamituga, territoire de Mwenga. Les autorités sanitaires du Sud Kivu demandent à la population d'observer des mesures d'hygiène et de signaler tout cas suspect de monkeypox. Docteur Claude Baïziré, médecin en charge de la communication à la division provinciale de la santé Sud Kivu, est au micro d'Emmanuel et la Mejua Kabedi.
Oui, c'est vrai, c'est confirmé. Il y a au moins 48 heures ou 72 heures, Il y a un cas qui est déjà confirmé par laboratoire. Nous avons d'autres cas, 3 cas, qui ne sont pas confirmés sur labo. Mais les signes, en tout cas cliniques, montrent que probablement sont des cas de monkeypox. Et ça fait 4 cas jusqu'à hier de monkeypox. Et tous ces cas viennent de la zone de santé de Kamituga. C'est une des maladies d'ailleurs sous surveillance en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a plus de 20 provinces qui ont des cas de monkeypox. Donc en français d'ailleurs on appelle ça variole des singes. Des cas de monkeypox ne se notifient pas au Sud Kivu. C'est une maladie qu'on se contracte lorsqu'on a des contacts avec un animal malade. La maladie en soi, ça se soigne, mais c'est pas n'importe où parce que c'est une maladie très contagieuse et peut tuer par complications. Et pour le moment, dans la province du Sud Kivu, on est en train déjà de prévoir de faire des dispositifs pour avoir un centre de traitement des monkeypox pour le Sud Kivu.
Santé encore, début ce jeudi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Kasaï oriental. La cérémonie de lancement de cette campagne a été présidée à la mairie de Mbujimayi par le gouverneur de province intérimaire Jules Kalenga Kabongo. Le chef de division intérimaire de la santé note que plus d'un million d'enfants de 0 à 59 mois sont attendus au cours de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, campagne qui devra durer 3 jours, soit du 12 au 14 octobre. Esther Ndalafina.
Il fallait que cette campagne contre la poliomyélite s'organise dans la province du Kasaï oriental. De par sa définition, la poliomyélite ou paralysie infantile est due au poliovirus qui est transmis par le contact avec les excréments. La poliomyélite est une maladie contagieuse et elle envahit le système nerveux en entraînant des paralysies irréversibles. Cette épidémie a débuté en RDC le 8 mai 2017 et se poursuit à ces jours. Au Kasaï oriental, c'est depuis le 14 août 2023 que la province a notifié 20 cas dans 9 zones de santé. La zone de santé de Lukelenge vient en tête avec 4 cas, suivie de Miabi et de Mouya avec 3 cas chacune, Bonzola et Nzaba 2 cas chacune, les zones de santé de Bipemba, de Kansele, Kasansa et Chilenge ont notifié chacune 1 cas. La province est actuellement à l'étape d'investigation. Depuis le mois de mars dernier, la division provinciale de la santé en collaboration avec MOI a lancé une campagne de surveillance communautaire sur la poliomyélite dans la commune de Bipemba. Pour lutter contre cette maladie dans la province, le médecin chef de division provinciale de la santé souhaite l'intensification des campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et comme en Mbujimayi, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a aussi débuté ce jeudi dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. Ici, ce sont plus de 97 000 enfants âgés de 0 à 59 mois qui sont attendus dans cette campagne qui va durer 3 jours. Elle se fera de porte à porte. D'après le médecin chef de zone de santé de Beni, Dr Mouindo Fikiri, cette campagne vise également tous les enfants déplacés suite à l'insécurité et qui vivent à Beni. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Il n'y a pas encore moins qu'un mois, notre zone périphérique de Kamango ici aurait rapporté 1. Ce qui veut dire que ce virus réellement est en train de circuler dans la communauté. Par rapport à l'estimation de notre population, nous devons avoir une cible de 97 942 enfants de 0 à 59 mois attendus pour cette campagne ici. Je vais insister sur notre région parce que nous accueillons aussi des déplacés de guerre. Et donc, nous accueillons aussi des enfants. Ils n'ont jamais même eu un vaccin. Où ils étaient en cours de vaccination de là où ils proviennent et ils ne sont pas complètement vaccinés, s'ils contractaient la maladie, ils deviennent la source de contamination pour les autres enfants. C'est pourquoi nous avons l'obligation de les vacciner aussi.
Les parents ne doivent pas être passifs. Lorsqu'il a constaté que pour une raison ou l'autre, les vaccinateurs n'ont pas pu vacciner à son domicile, il doit remonter rapidement l'alerte auprès du centre de santé proche pour qu'on récupère assez rapidement l'enfant pendant que la campagne est en cours. Il y a eu des ratés dans nos campagnes. Nous devons nous rassurer que nous avons suffisamment vacciné nos enfants.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les avocats de l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko contestent sa radiation des listes électorales, ce qui l'empêche d'être candidat à la présidentielle de février 2024. Selon l'agence France Presse, Ousmane Sonko, maire de Zengueshore, troisième de la présidentielle de 2019 et candidat à celle de 2024, a été déclaré coupable le 1er juin dernier de débauche des mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme. Il avait refusé de se présenter au procès qu'il dénonçait comme un complot pour l'écarter de l'élection. Il a été condamné par contumace. Il a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'administrateur gestionnaire du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma. Ce centre totalise 30 ans au service de la population de l'Est de la RDC. Anissé Mourouani parle des conditions de travail à ce centre de Goma, communément appelé santé mentale. Anissé Mourouani s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Mourouani Anissé, bonjour.
Bonjour.
Vous desservez les malades, les habitants de quelle région?
À part les patients qui nous viennent de notre province du Nord Kivu, nous recevons aussi des patients qui viennent du Sud Kivu, d'autres qui nous sont référés à partir de Bunia et d'autres de Kindu. Nous recevons aussi certains patients qui habitent Gisenyi, qui trouvent qu'aller dans notre hôpital d'Ndera, c'est très loin. Ils préfèrent traverser la frontière pour venir bénéficier des soins ici.
Les personnes que vous traitez ici viennent souvent pour quelle cause?
Pour ce moment, avec la situation que nous traversons à province, le patient que nous sommes en train de recevoir, il y a plus de cas avec troubles liés au stress post-traumatique. Bon, avec la situation des guerres et le déplacement et la vie précaire, il y a beaucoup de cas aussi d'épilepsie. Mais les cas les plus reçus en hospitalisation, et c'est surtout la jeunesse, ce sont des cas d'alcoolisme et troubles liés à la prise des substances psychoactives. Si vous entrez même en hospitalisation maintenant, vous allez trouver que la majorité de malades qui sont en hospitalisation, ce sont les jeunes. Et plus leur pathologie, c'est soit l'alcoolisme avec la prise de boissons fortement alcoolisées, mais aussi la prise de substances psychoactives, du chavre, du papatex et d'autres stupéfiants. Surtout, ce sont les jeunes garçons et malheureusement, des jeunes qui ont l'âge qui varie entre 14 et 25 ans, 28 ans, alors vous voyez que c'est vraiment la jeunesse.
Et pour les personnes qui souffrent du stress post-traumatique, comment est assurée leur prise en charge?
La grande partie est suivi en ambulatoire. Ce qui arrive vraiment en hospitalisation, ce sont des cas qui n'ont pas bénéficié tôt d'une prise en charge, soit d'un accompagnement psychologique ou d'un soutien au niveau de la famille ou au niveau de l'entourage. Mais le plus souvent, ce sont des cas que nous arrivons à suivre quand même en ambulatoire. On les aide pour qu'ils n'arrivent pas à développer des dépressions graves. Donc l'accompagnement est d'abord psychologique. Et pour des cas qui commencent à présenter d'autres signes comme les insomnies, comme les instabilités, comme les replis sur soi, c'est là où on peut envisager un peu de médicaments. Mais souvent, on renforce leur personnalité avec l'accompagnement psychologique qui peut les soutenir davantage pour éviter de tomber juste dans une dépression grave.
Les centres reçoivent les malades de plusieurs provinces, comme vous l'avez dit. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face?
Bon, pour le moment, vous voyez, avec la précarité que traverse notre population, nous avons beaucoup de cas que nous appelons entre guillemets des cas sociaux qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge et de payer leurs soins. Mais aussi, il y a un autre défi qui est très énorme avec les patients qui nous viennent, par exemple, de milliers très reculés. La restauration de ces patients pose problème parce que vous n'allez pas demander à un patient qui vous est venu du côté Massissi de rentrer toujours à Massissi et aller chercher à manger. Donc, comme le centre n'a pas de possibilité d'assurer la restauration de patients hospitalisés, ça c'est vraiment aussi un grand défi. Mais il y a aussi un grand défi qui est le soutien du gouvernement par rapport à certaines taxes. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau et nous sommes obligés d'acheter de l'eau chaque semaine au moins 2 fois. Bon, le problème de l'électricité, c'est nous qui le payons. Bon, nous avons beaucoup d'argent qui ne sont pas pris en charge par l'État, c'est-à-dire par exemple des primes ou salaires de l'État. Alors tout ça, ce sont des défis. Mais aussi un autre défi majeur, c'est juste cette prise en charge-là des jeunes toxicomanes parce qu'il faudrait qu'on ait vraiment un cadre retiré dans lequel on devait prendre en charge ces jeunes et les accompagner pour qu'ils arrivent à sortir peut-être de cette addiction-là.
En termes des perspectives, qu'est-ce que vous entrevoyez?
Vous voyez, notre centre, c'est un centre neuropsychiatrique. Nous sommes en train de penser comment développer les services neurologiques d'une manière spécifique pour que nous puissions servir vraiment des patients qui présentent des troubles neurologiques à part et les patients qui présentent des problèmes psychiatriques à part. Mais pour le moment, s'il y a des cas neurologiques graves qui nécessitent l'hospitalisation, tous sont hospitalisés ensemble. Je dirais ensemble parce que c'est le même bloc, mais de pavillons différents. Mais on voulait avoir quand même un bloc à part de neurologie. Mais aussi, comme j'ai dit par rapport à l'addiction, on voulait aussi avoir un jour un bâtiment où on va prendre en charge spécifiquement des toxicomanes. Mais aussi, nous sommes en train de voir comment améliorer la qualité des services en apportant les soins même aux personnes les plus démunies. Et là, ça demande un appui. Donc, si vraiment, dans l'avenir, nous continuons à avoir des appuis des personnes de bonne volonté, peut-être du gouvernement ou des organisations internationales, ça peut permettre que tous les malades qui sont pauvres, qui restent dans les familles, parce que leurs familles ne sont pas en mesure de les amener à cause de moyens, ceux-là peuvent bénéficier facilement de prise en charge.
Monsieur Mouhani Anisset, je rappelle que vous êtes administrateur gestionnaire du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma. Merci.
Merci aussi.